Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue dans Langue de Prune, l'émission qui vous parle de la langue, du langage, de tout ce qui gravite autour. Je suis Axel et je vous présenterai l'émission d'aujourd'hui. Pour marquer cette rentrée, notre deuxième année d'antenne, je vais faire l'appel. Asilis.
Présente.
Louis.
Présent, je suis jamais parti, ça fait 4 mois que je vous attends.
Morgane.
Présente.
Et oui, nous accueillons une nouvelle animatrice, une nouvelle voix, Morgane, qui nous rejoint cette année pour apporter une nouvelle perspective. Bienvenue.
Bonjour.
Morgane.
Et Guillaume est retourné sur sa planète.
Oui. Si j'ai fait l'appel pour commencer l'émission, au lieu de juste dire bonjour tout le monde, c'est aussi parce que le thème de notre émission sera les noms. Avec une nouvelle année qui commence, vous allez sûrement rencontrer de nouvelles personnes, entendre des nouveaux noms et prénoms que vous n'avez jamais entendus avant, d'autres que vous avez entendus au contraire à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il s'appelle Clément. Nous allons donc vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi on s'appelle comme ça, ce qui influe le nom, le prénom des personnes. Asilis va commencer par nous parler des prénoms, ce qui influence leur choix. Morgane présentera sa toute première chronique avec nous, d'ici et d'ailleurs, sur le nom d'un objet, justement, qui fait débat. Louis se concentrera sur les noms de famille, leur histoire. Et je vous présenterai Étymologie en folie, avec quelques noms de célébrités. Après une pause musicale, Louis reprendra le micro pour nous présenter la chronique « À qui la faute ?» Et Morgane nous fera faire un petit tour en Asie, en parlant de manières de s'appeler qui sont autres que le nom-prénom qu'on utilise ici en France. Un sujet assez léger pour la rentrée. Et je vais donc laisser la parole à Asilis qui va nous parler des prénoms.
Alors, comment est-ce qu'on choisit un prénom? Il y a un grand choix de prénoms puisqu'on peut même inventer des prénoms. Donc, j'ai été directement demandée à des gens à bouffer à Nantes. Je ne me suis pas fait agresser. Et on va écouter ça.
Est-ce que vous avez des idées de prénoms?
Marie.
Roi. Dominique.
Marion et Thomas.
Martine.
Jacques. Pierrette et Alain.
Aurélie.
Périne.
Maëva.
Déborah.
Sacha.
Chloé.
Chut.
Ruben.
Héloïse.
Jordan ou Anatole. Donc,
Paloma.
Johanna.
Zaline.
Et moi, je m'appelle Henri.
C'était Lola ou Laura. Puis c'est au final, en fait, mon papa, c'était Lola. Ma maman, c'était Laura. Voilà, qui c'est qui porte la culotte. Donc.
Ma mère a choisi ce prénom, c'est pensé que c'était original à l'époque. D'où je suis née. Or, je m'aperçois que c'est pas du tout original parce que j'ai plein de copines qui s'appellent Dominique.
Si j'aurais une fille, bah, ça s'appellera Lola. Je sais pas, Lola, il y a deux L dans le même prénom, donc j'aime bien.
Mon père tenait absolument à ce qu'on ait les prénoms soit de sa mère, soit de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. Donc du coup, ma mère a accepté, enfin à condition que les noms soient beaux, parce que sinon...
C'était la mode des Martines, il y avait Martine Carole à l'époque. C'est les années 1950, je suis née en 50, donc... C'était ça. C'était des modes, sans doute, qu'il y avait, que les parents donnaient les prénoms, comme ça. Ils ne réfléchissaient pas trop.
Parce que mon père s'appelait Gabriel. Et mon grand-père aussi.
Alors, on l'a vraiment appelé, on savait pourquoi. On l'a appelé Maëva, c'est bienvenu en tahitien. Et j'ai eu des difficultés à l'avoir, donc c'est bienvenue. Donc elle était vraiment bienvenue. Puis c'est la seule fille que j'ai eue.
Ma mère, elle est née au Portugal, et vu que Johanna, c'est un prénom portugais, donc elle a voulu donner un prénom de ses origines.
C'est notamment Henri IV, mais aussi un de mes ancêtres qui s'appelait Henri, mais aussi Henri Cartier-Bresson, le photographe. Et également, bien sûr, la chanson de Daniel Balavoine, le chanteur, qui a fortement inspiré mes parents.
C'est un peu étrange, mais... Ils ont rêvé en fait de ça et ils m'ont appelé comme le prénom de leur rêve.
Moi je le trouvais beaucoup trop commun, mais quand j'ai su que ça venait de mes arrière-grand-mères, du coup d'un coup je l'aimais beaucoup plus.
Avec Martine, j'ai traîné la Martine, la petite BD là. Enfin, alors Martine fait ceci, Martine fait cela, Martine en vacances. Hein.
Moi j'aime bien. Enfin, je sais qu'à la base ma mère voulait m'appeler soit Nadia ou Leila, mais finalement j'aime bien Déborah. Ou alors, elle devait m'appeler Swazik. Alors, bon, à choisir, je préfère Déborah. Même si c'est breton qu'on aime la Bretagne, je préfère Déborah.
Moi, j'aime bien mon prénom parce que c'est mix et je trouve que c'est... Enfin, j'aime bien parce que ça a pas trop d'étiquettes. Et sinon, en fait, j'aime pas trop parce que mon prénom, il s'écrit avec un S. Et souvent, les gens, ils l'écrivent mal et c'est un peu frustrant.
Moi, je l'aime bien, mon prénom. Le gros problème qui fait que c'est un peu dérangeant dans la vie de tous les jours, c'est que c'est un prénom qui est extrêmement donné. Donc, j'entends des Chloé un peu partout et je me retourne tout le temps en croyant que c'est moi, alors que pas du tout. Et à force, j'ai pris l'habitude de ne pas répondre à mon prénom. Et des fois, c'est moi qu'on appelle et je ne réponds pas non plus.
Moi, j'aime bien mon prénom parce que les gens galèrent quand ils doivent le dire. Mais j'aurais bien aimé si j'avais pu avoir un prénom mixte.
On va dire que mon prénom m'a apporté pas mal de mes aventures, notamment justement à cause de la Balavoine. Parce que justement, je ne peux pas utiliser une certaine formule de présentation sans que tout le monde rie dans la salle. Et aussi, justement, on n'arrêtait pas de me la chanter, mais à part depuis que j'aime la chanson, ça va beaucoup mieux dans ma vie.
Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent.
L'un des trucs auxquels on fait le plus attention quand on choisit un prénom, c'est est-ce que ça sonne bien ? C'est pour ça qu'il y a plein de prénoms en O, en A, Léo, Léa. Et aussi, est-ce que ça sonne bien avec le nom de famille ? Il faut éviter des trucs du genre Peter Pan. Et puis, il y a des traditions autour du choix du prénom. Jusqu'au début du XXe siècle, en France, le premier prénom, c'était le nom du grand-père ou de la grand-mère. Le deuxième, celui du parrain ou de la marraine, voire du père ou de la mère. Et enfin, le troisième, c'était le nom du saint ou de la sainte du jour où on est né, ou d'un ancêtre auquel on voulait rendre hommage. Du coup, c'était le troisième prénom qui était nom d'usage parce que c'est lui qui permettait de différencier les frères et sœurs. Il y en a toujours une trace aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont comme deuxième et troisième prénom les noms des parrains-marraines. Je ne sais pas si c'est le cas de personne autour de la table.
Moi, c'est juste mon arrière-grand-mère.
Oh. Et ouais. C'est mes grands-parents.
Moi, c'est mes deux arrière-grand-mères qui étaient en vie quand je suis née.
Donc, il n'y a que moi, en fait.
Oui, c'est que toi.
Alors, en Grèce, il y a toujours ce truc de transmettre les prénoms au sein de la famille. Donc là, c'est les vrais prénoms, premier prénom. Le premier enfant d'une fratrie va avoir le prénom d'un de ses grands-parents paternels et le deuxième enfant, le prénom d'un de ses grands-parents maternels. Du coup, ça fait que les prénoms en Grèce, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'Alexandros, beaucoup de Yanis. Et plus ça va, plus le choix du prénom est personnel. On choisit un prénom en fonction de gens qu'on a rencontrés, de souvenirs, de personnages de séries ou de célébrités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prénoms anglo-saxons. Et puis il y a aussi des gens qui choisissent les prénoms en fonction des chansons. Le prénom Johnny a connu un pic en 1980 grâce à Johnny Hallyday.
Moi je m'appelle
Entre 2000 et 2001, le prénom Alizé est passé de 561 à 1201 dans la même année, et puis il est retombé juste après. Et le prénom Marie-Lou a doublé l'année de sortie du titre de Paul Naref en 1989 et a ensuite augmenté jusqu'à connaître un pic en 2006. Donc les gens essaient d'être originaux et parfois ils n'y arrivent pas trop, donc ils essaient d'être originaux dans l'orthographe en mettant deux T à Mathéo ou un H à Léa. Et puis ce qui détermine beaucoup le choix du prénom, c'est le milieu social. Jusqu'aux années 90, il y avait une diffusion verticale des prénoms. Donc les personnes des classes favorisées choisissaient des prénoms qui étaient à la mode dans leur milieu. Et puis ensuite, ces prénoms-là étaient adoptés par les classes populaires. Mais au moment où ils étaient adoptés par les classes populaires, ils étaient déjà plus à la mode dans les classes favorisées. Maintenant, on est plutôt dans un modèle de ségrégation sociale des prénoms. Ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes prénoms dans les classes populaires et les classes aisées. Dans le milieu populaire, on se détourne des prénoms en lien avec la religion. On a pas mal de prénoms anglo-américains notamment. Tandis que chez les bourgeois, il y a beaucoup de prénoms chrétiens. Et on continue à se transmettre des prénoms de famille, l'héritage. Et dans le coin, c'est pas mal, chez les bourgeois, c'est pas mal la mode des prénoms bretons. Et il y a des classiques qu'on retrouve là dans toutes les classes sociales. Pour les garçons, c'est Paul, Antoine, Pierre, Thomas. Pour les filles, Léa, Manon, Camille, Emma, je pense que tout le monde en connaît beaucoup. Donc il y a des classiques et puis il y a aussi des modes avec les prénoms. Ces modes, elles sont de plus en plus rapides. Des années 1910 à 1940, c'était la mode des Michel, donc ça a quand même duré très très longtemps. Par contre, la mode du prénom Sébastien, ça a duré seulement 5 ans, de 1975 à 1980. Et les modes, elles reviennent. Il y a une augmentation rapide de l'utilisation d'un prénom, jusqu'à avoir un pic, et ensuite il y a un lent déclin. Et le prénom peut revenir à la mode au bout d'un siècle ou un siècle et demi. Par exemple, Julie était à la mode en 1830, et il est revenu à la mode en 1980. Donc on va jouer un petit peu avec ces modes des prénoms. Tenez-vous prêtes et prêts. Alors, quel est le prénom breton le plus populaire en France en 2022? Il y en a plein, hein, mais un qu'on entend beaucoup.
Soazic.
Maëlle.
Lénaïque.
Ouais, non mais Lénaïque, à part ma sœur, il n'y en a pas.
Pas que ta sœur, elle s'appelait comme ça.
Hein. Ouais, c'était Maëlle, mais Maëlle pour un garçon.
Ah ouais.
Quand nous, ouais, de notre génération, il y a pas mal de Maëlle filles. Ouais, et maintenant, c'est les Maëlle garçons. C'est le 7e le plus donné en 2022.
Ah oui.
Alors, quels sont les vieux prénoms, donc revenus à la mode, les plus donnés en 2022?
Marcel.
Non.
Louis.
Louis est pas mal classé.
Mais c'est pas féminin. Un vieux prénom.
Bah si, Louis, les rois de France.
C'est quoi? Waouh, enfin vieux, 300-400 ans. Oui, bah là, ça va loin quand même.
C'est quand même un vieux prénom. Marcel, ça date de quoi, la guerre?
Mais il y en a plein des Louis maintenant.
Bah oui, mais c'est un vieux prénom.
Ouais. C'est un vieux prénom, enfin.
Donc ouais, c'était Louis.
Il y a Serge, Marcel aussi.
Il y en a un autre pour les garçons.
C'est quoi?
Robert.
C'est le prénom d'un ange.
Gabriel.
Gabriel.
Et eux, Gabriel et Louise, ils sont vraiment courants parce qu'ils sont répandus dans... Enfin, là, ils ne sont pas spécialement réservés aux bourgeois, quoi. Alors, dernière question. Là, on s'éloigne un petit peu. Quels sont les prénoms les plus donnés au Royaume-Uni en 2020? Un féminin, un masculin.
C'est dur.
Il n'y avait pas Arya pour Game of Thrones.
Ouais, Daenerys. Je crois que j'avais vu Daenerys aussi.
C'est pas parmi les premiers. Les deux, masculin et féminin, commencent par
Oligarchie.
Olivia.
Ouais, Olivia et Oliver.
Ah ouais.
Et c'est vrai que ça encore, on en a des Olivia, mais il y a des trucs un peu plus originaux, enfin des trucs qu'on n'a pas en France, comme Ivy ou Archie.
Ah bah le petit prince.
Ah, il s'appelle comme ça?
Bah oui, le prince de... Enfin, le fils de Meghan et Harry.
Archibald. Tu ne connais pas ton arbre généalogique britannique?
Tout de même.
Je connais mon arbre généalogique. Donc, on voit que le choix du prénom est pas anodin. Il a un impact toute la vie sur les gens. Si on a un prénom d'origine populaire, bah en fait, ça risque de nous desservir, que ce soit avec les profs ou plus tard dans le monde du travail. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, je voulais dire, il y a aussi certaines personnes qui pensent que ça peut influer sur la personnalité. Mais on en parlera plus tard si on a le temps.
Langue de prune.
Merci Asilis. On va rester un tout petit peu dans le sujet avec Morgane qui va donc nous parler du nom d'un objet qui fait débat.
D'ici et d'ailleurs.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux et qui fait débat depuis très longtemps en France. On a tous déjà eu des conversations interminables et enflammées avec nos amis quand on mentionne ce mot. À mon avis d'ailleurs, il a encore un bel avenir devant lui. C'est un mot sur lequel personne n'est d'accord. Et pourtant, il est essentiel et on l'utilise au quotidien. C'est un mot pour décrire une chose complètement banale. Alors, avez-vous deviné de quel mot je parle? Eh oui, je parle bien du tankerville, ou de l'étant à linge, ou du séchoir à linge, ou de l'étendoir à linge. Bref, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de mots pour décrire la même chose. Mais alors, quel est le vrai mot? Comment en est-on venu à l'appeler tankerville? D'abord, on va faire un petit tour de table et je vais demander à mes camarades comment ils appellent cet objet de l'enfer.
Bah moi j'appelle ça un étang à linge,
okay.
Certainement pas un tankerville.
Un étendeur à linge.
Un étendeur.
Oui.
Oui, j'ai déjà entendu.
Mais c'est même pas français.
Bah si.
Non, un étendoir.
Tu sors de cette émission.
Un étendoir à linge à la limite.
Ah ouais, pareil. Étendoir, ouais.
Ok, bon, bah, moi perso, j'utilise Tancarville.
Tu vois, je savais que ça allait être polémique.
Mais oui.
Mais on a toujours dit. Moi, dans ma famille, on a toujours dit étendeur à linge.
Mais c'est pas logique.
Bon, voilà. C'est comme ça à Notre-Dame-des-Landes. Hein.
Bon, eh bien, comme on peut le constater, encore une fois, personne n'est d'accord. Personnellement, j'appelle ça un Tancarville ou étendeur à linge. Je pense qu'encore une fois, la racine du problème vient des différences régionales. Par exemple, une partie de ma famille est vendéenne et l'autre est normande. On me dit souvent d'ailleurs que je parle comme les Normands, mais il faut avouer que des fois, j'ai des petits mots de vocabulaire vendéen qui m'échappent. Alors sachez qu'en Normandie, on dit Tancarville, mais dans ma famille, on dit aussi étendeur-à-linge, du côté vendéen. Alors, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur un article de 2019 du Parisien qui m'a donné quelques réponses. Finalement, l'histoire est assez simple. La marque Tancarville est née en 1960. Elle devient très vite la marque de référence des séchoirs car c'est la seule marque totalement française. Le séchoir, c'est donc le mot d'origine pour cet objet. Mais la marque étant devenue si populaire, beaucoup de Français ont commencé à l'appeler Tancarville. Finalement, quand on y pense, c'est exactement comme le caddie. Eh bien oui, parce que le vrai nom d'un caddie, c'est chariot. Caddie, c'est le nom de la marque qui a créé les chariots que l'on connaît tous. Et un frigidaire, c'est en fait un réfrigérateur. Bon, bref, il y a des dizaines d'exemples comme cela. Mais revenons-en à nos moutons. Selon ce même article du Parisien, 30% des Français utiliseraient encore le mot Tancarville pour désigner cet objet. Même les jeunes, c'est dire à quel point il est populaire. Hein. Mais en réalité, même s'il est utilisé par 30% des Français, le mot est surtout répandu dans l'Ouest. Et attendez, il y a plus. Le Tancarville, de base, est le nom d'un pont en Seine-Maritime. Et c'est ce pont qui aurait inspiré le design du séchoir que l'on connaît tous aujourd'hui, grâce à ses fils de maintien de la structure. Et oui, encore une fois, tout est lié. Certains disent même que le Tancarville fait partie du patrimoine national. Bon, là, c'est peut-être un peu too much. Donc finalement, quand on y pense, le nom de Tancarville est une déformation de langage. Mais cette déformation de langage est surtout présente dans le Grand Ouest et peu dans le Sud, par exemple, qui va préférer les mots séchoir ou étendoir, et pas étendeur. Bon, personnellement, je resterai toujours attachée au mot de Tancarville ou à l'étendeur-à-linge, qui, admettons-le, n'est peut-être pas très français. Mais finalement, le plus important, c'est de se comprendre.
Et merci Morgane. Du coup, pour faire redescendre un peu les émotions, l'énervement, tout ça, nous allons faire notre première pause musicale avec la chanson The Name Game de Shirley Ellis. C'est une chanson qui explique en fait comment faire rimer tous les prénoms. The Name Game. Shirley, 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 Bo Burley, Bo Nana, Fana, Bo Furley, Fee, Fi, Mo Merley. Shirley. Lincoln, 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 Bo Bingan, Bo Nana, Fana, Bo Bingan, Fee, Fi, Mo Mingan. Lincoln. Come on, everybody. I say now let's play a game. I bet you I could make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name, I treat it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B. Then I say the name, then banana. Then I say the name again with an F, third plane, then a fee, fi, and a mo. Then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Honol, 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 bobonol, bonana, fana, fofonol, fee, fi, mo, monol, honol. But if the first two letters are ever the same, I drop them both. Then a fee, fi, and a Vous êtes sur Prune 92 FM et toujours dans l'émission Langue de Prune. Louis va maintenant nous parler des noms de famille et de leur histoire.
Eh bien oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de nos noms de famille, ou plutôt en effet leur histoire, hein, comme vient de le dire Axel. C'est vrai ça, on en porte tous, on ne sait pas toujours pourquoi ou comment nous sommes venus à les porter, à les avoir, ces fameux noms. Bon, on a tous plus ou moins une théorie sur l'origine de notre nom de famille personnel. Je veux dire, le mien c'est Le Marchand, ça laisse pas trop de place au doute, je me doute plus ou moins qu'est-ce qu'a fait l'un de mes ancêtres un jour. Hein. Bon, et vous, chers collègues chroniqueurs, vous avez une petite idée de d'où viennent vos noms, de leur histoire même?
Oui. Tu veux qu'on te dise?
Oui, oui, bah oui, si je vous pose la question, c'est pas purement rhétorique.
Bah pareil, charretier, c'est le nom des gens qui tiraient des charrettes ou qui fabriquaient des charrettes, je sais pas trop, c'est un nom de métier.
Moi, courroucé.
C'est des gens qui s'énervaient.
Bah voilà, je pense qu'il... Alors, il y a peut-être vraiment quelque chose genre d'un peu plus compliqué au niveau étymologique, mais je pense qu'ils étaient juste connus pour être énervés.
Bah, moi, c'est Giraudot. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est vendéen. Donc, voilà, il faudra demander au ventre à chaud, je ne sais pas.
Eh bien, nous allons pouvoir en parler un peu plus. Et Axel pourra du coup probablement découvrir que courroucé, ça veut probablement dire qu'effectivement, un jour de ses ancêtres s'est énervé un peu trop. Bon, on rigole, mais cette histoire d'imaginer ou de savoir l'origine de nos noms de famille, ça peut parfois devenir une arme politique selon le but recherché, j'y reviendrai un peu plus tard. Faisons d'abord un peu d'histoire. Bon, vous avez l'habitude, hein, moi, dès que je suis là, c'est pour parler un peu d'histoire, hein, c'est un peu ma spécialité, mais enfin bon, je vais essayer d'être bref. On va remonter jusqu'à la période antique, chez les Romains. En effet, Rome, c'est la principale, voire potentiellement la seule civilisation antique dont on sait qu'elle utilisait une forme de nom de famille. Globalement, un Romain, il portait trois noms. D'abord son prénom, puis le gentilice, qui correspond sommairement à un groupe de famille, et enfin, ce qui nous intéresse, le cognomen. À l'origine, c'était de simples surnoms, comme le chauve, bon je traduis, hein, mais le chauve, le doux, le sabin, il y a plein d'autres exemples et possibilités, mais on ne va pas s'y attarder, hein, navré, ami romanisant, mais ce n'est pas le sujet. À terme, ces surnoms ont fini par devenir des noms de famille. Un Romain pouvait donc avoir d'ailleurs jusqu'à deux noms de famille, parce que le gentilice, bon, c'était un peu spécial, hein, mais, car il s'appliquait à tous les membres de la maison, c'est-à-dire que même les esclaves et serviteurs le portaient. Donc bon, c'est pas exactement la perception que nous, on a d'un nom de famille, mais ça s'y porte un peu malgré tout. Ça signifie aussi que quasi uniquement, je vais dire, les gens de la haute en avaient un, hein, de gentilice, parce qu'un membre du peuple n'avait en général qu'un prénom et un cognomen. Il n'avait pas vraiment toute une maison à laquelle il allait pouvoir transférer son gentilice à des esclaves et des serviteurs. Il n'y a pas exactement l'argent pour ça, ni le standing. Ce modèle, les Romains ils l'ont exporté dans les territoires qu'ils ont conquis, et plus spécifiquement en Gaule, pour ce qui nous intéresse. Toutefois, avec la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle et les invasions dites barbares, ce modèle disparut et les envahisseurs réimposèrent leur système de noms uniques non transmissibles. Et c'est là qu'on va commencer à voir un peu le début de l'apparition de nos noms de famille. Alors déjà, qu'on soit clair, c'est pas du jour au lendemain. On s'est pas dit d'un seul coup, tiens, mon prénom il est un peu pourri. On porterait bien un deuxième. Enfin, un deuxième nom, en tout cas. Enfin, comme ça, ce sera un peu moins chiant. Non, ça s'est fait sur un temps assez long. La réapparition progressive des noms de famille en France s'étale environ du 10e au 12e siècle. C'est en effet à cette période qu'un problème de taille se fait sentir. Il y a trop d'homonymes dans les villes et villages. C'est-à-dire que dans un même espace, on pouvait avoir genre 4 Martin, 6 Clément, 2 Jeanne, 8 Mélanie. Bon, c'est pas vraiment facile de savoir de qui on parle et à qui on s'adresse à partir de ce moment-là. C'est donc pour ça que de la même manière que les Romains à leur époque, on constate la résurgence de surnoms. Ils ne sont pas apparus du jour au lendemain également. Hein. Ces surnoms, ils étaient déjà certainement utilisés auparavant, mais leur usage tend à se démocratiser au Xe siècle, avant de se généraliser sur toute la population aux environs du XIIe siècle. Et surtout, ces surnoms sont devenus héréditaires. Et voilà, on a nos noms de famille. Après cette apparition organique, il y a aussi eu une lente législation qui a commencé au XVe siècle et elle se met en place au cours de plusieurs siècles. Je vais rapidement les déblayer, hein, je retiens globalement 5 moments clés. Tout d'abord, en 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans autorisation royale. Ça fixe définitivement les noms de famille comme un nom immuable qui vous lie à vie et permettra toujours de vous désigner. Plus tard, en 1539, c'est François Ier qui promulgue l'ordonnance du Villers-Cotterêts. Vous avez sûrement ou probablement déjà entendu parler de cette ordonnance. Hein. On aime beaucoup en parler, surtout à la aux chaînes d'info. Nos lycéens, d'ailleurs, voient cette ordonnance en seconde. C'est une obligation du programme. C'est l'ordonnance qui impose que tous les textes administratifs soient rédigés en français. On est encore très loin d'un royaume qui parle uniquement français. Hein. C'est pas une ordonnance qui acte la position de la langue sur tout le royaume. Hein. C'est vraiment quelque chose de très administratif. Enfin bon, je digresse un peu. Pour en revenir à nos moutons, cette ordonnance, elle comprend d'autres nouveautés. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'obligation de la tenue de registre d'état civil. Cette tâche, elle retombe sur les curés, car il y en a un peu partout sur le royaume, hein, et ils sont fixés géographiquement avec leur paroisse. Ce n'est pas non plus révolutionnaire, car ça se faisait déjà dans les villes, mais maintenant c'est globalisé sur l'ensemble du royaume de France. Maintenant, la naissance, le mariage, la mort d'un individu sont scrupuleusement enregistrés avec son identité complète, qui comprend donc son nom de famille. En parlant de révolutionnaire, la Révolution transmet la tâche de la tenue des états civils à la mairie de chaque commune, donc on se sépare du côté confessionnel. Et enfin, le 23 août 1794, il est rendu interdit de porter d'autres noms et prénoms que celui qui est enregistré sur ce fameux état civil. Enfin, en 1870, c'est le livret de famille qui apparaît et fixe pour de bon l'orthographe des noms de famille. Bon, voilà, c'était un petit tour d'ensemble rapide. Ça nous fait une petite idée de comment les noms de famille sont apparus et sont imposés en France et pourquoi on les connaît toujours aujourd'hui sur leur forme actuelle. Bon, maintenant, je vais essayer de parler un peu plus de l'origine des noms de famille. Plus précisément, à leur formation. Je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps sur l'étymologie. Ça va vraiment être question de comment ils sont venus à se former. On peut résumer, dégager quatre grandes catégories de noms de famille en France. Hein. Je ne généralise pas sur le monde entier, bien sûr. La première, c'est les noms issus de prénoms. Il s'est dit, c'est chiant de porter mon prénom, mais tant qu'à faire, j'en portais un deuxième. Bon, c'est pas exactement il s'est dit ça, mais voilà. Dans un village, c'est pour prendre un exemple, dans ce fameux village, il y a deux Jean. Le premier est fils de Roger. Le deuxième, son père, il s'appelle également Jean. C'est pas pratique, hein. En ce cas, Jean, fils de Roger, il va s'appeler Jean Roger. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le surnom qu'on lui donne, Jean, fils de Roger, Jean Roger. Le deuxième, dont le père s'appelle également Jean, on ne va pas l'appeler Jean-Jean. C'est un peu redondant. Ils ont attribué un nom qui dérive du prénom. Ça peut être Jeannet, Jeannot. Vous faites un peu ce que vous voulez avec Jean et vous avez le nom de famille que vous voulez. C'est une forme d'ailleurs qu'on a en commun avec l'italien. C'est l'ajout d'un suffixe diminutif à un nom qui permet d'avoir une déclinaison quasi infinie. On estime par ailleurs qu'environ 40% des Français portent un prénom qui est issu... non, l'inverse, pardon. 40% des Français portent un nom de famille qui est issu d'un prénom. D'autre part, on constate que ces noms sont souvent des patronymes. Bah oui, je vous ai dit, Jean, fils de Roger, Jean Roger, il a repris de son père, il n'a pas pris de sa mère, c'est pas matronyme. Il est très rare d'ailleurs que ce soit matronyme. Ça se constate, cela dit, dans certains départements français, comme dans mon Calvados natal. Oh. La deuxième catégorie, ce sont les noms de métiers. On en revient à mon nom de famille, le marchand, voilà, hein, je ne vais pas épiloguer, on s'en doute. Ainsi, une personne particulièrement efficace dans son métier ou qui existe un métier qui est rare dans son village se voit attribuer comme nom sa fonction. On remarque ainsi beaucoup de déclinaisons du nom de forgeron, par exemple. Fort, Lefèvre, Le Goff pour les Bretons, ce sont tous des déclinaisons de forgeron. La troisième catégorie, ce sont les sobriquets. Je ne sais pas ce que c'est qu'un sobriquet. On retrouve ce qui se faisait avec les Romains. Le surnom se base sur un critère physique, moral, un exploit accompli, etc. Là, c'est parfois un peu plus compliqué à expliquer, hein, parce que si un nom se repose sur une anecdote qui a eu lieu au XIe siècle, c'est assez dur de retracer l'étymologie, mais du coup, pour courroucer, on se doute ce qui a pu se passer un jour. Il y en a des plus évidents, hein, des noms de famille qui sont issus de sobriquets. Hein. Le sage, le riche, bon, on voit le genre. Deux autres possibilités. C'est la métaphore et la métonymie. La métaphore, on vous compare à quelque chose. La métonymie, c'est si vous êtes bon à quelque chose. Bon. De là à savoir si poisson, c'est pour dire que tu avais une face de poisson ou que tu étais un très bon pêcheur, on va avoir un peu de mal à remonter aujourd'hui. Enfin, la dernière catégorie, mais pas des moindres, la géographie. Si vous habitez près d'un pont, on va avoir tendance à vous surnommer le pont. Près de l'église, on vous nomme l'église. Il y a aussi, si vous êtes en dehors du village, on peut vous donner le nom de votre résidence, une ferme abandonnée, voilà, ce genre de choses. Si vous êtes étranger au village, on peut vous donner comme nom votre lieu d'origine. Toulon, Marseille, ce sont aussi des noms de famille. Ça marche aussi pour les régions, donc Savoie, Percheron, Langlais. Enfin, je me permets de rajouter un détail, c'est que ces catégories, elles peuvent se croiser, se mélanger. Je vais reprendre une dernière fois mon propre nom de famille, Le Marchand. Il s'écrit tout attaché, il n'y a pas d'espace. C'est une manière d'écrire mon nom de famille qui est typiquement normand, la plupart des Le Marchand étant issus de cette région. Toutefois, il existe des Le Marchand avec un espace ou un apostrophe. Et le plus souvent, ça cache une ascendance bretonne, les pauvres. Oh. Enfin, je vais terminer sur un aparté, sur l'utilisation politique qui peut être faite de la recherche de l'origine des noms de famille. Donc là, ça va se correspondre à... Je vais vous parler d'une chose qui m'a été donnée, un petit questionnaire. Donc, ce n'est pas un questionnaire qui a été fait en France. C'est fait dans le cadre d'un petit travail autour d'un concept de citoyenneté globale et de migration. Et le questionnaire dont je vais vous parler, c'est un questionnaire qui a été fait dans une université à Israël. Et on peut assez rapidement voir comment on peut se servir des noms de famille comme une arme politique, en tout cas quand on cherche à retracer les origines. Parce que ce questionnaire, je vais vous parler juste des quatre premières questions. La première question, c'est quel est ton nom complet ? Bon, là, voilà, c'est assez simple. Et il y a la deuxième question, c'est dites l'histoire de votre nom de famille telle que vous la comprenez. Là, déjà, on commence déjà à être dans le un petit peu problématique. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Le marchand, je suppose qu'un jour quelqu'un a été marchand. La troisième question, c'est en repensant à ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire sur votre héritage ? On commence à rentrer dans le borderline xénophobe. Et la dernière question, avec tout ce que vous venez de dire, d'après vous, quand est-ce que votre famille est arrivée dans le pays dans lequel vous résidez ? Là, je n'ai réellement plus rien à dire. Le marchand, je ne sais pas, sont peut-être arrivés en même temps que les Francs, peut-être pas, j'en sais rien. Sans compter que ça cache la moitié de l'origine de ma famille, vraiment, parce que dans mon nom de famille, il n'y a pas celui du côté de ma mère, qui s'appelle Olivier, et ainsi de suite. Hein, il y a toujours toute une moitié de la généalogie qui disparaît. Donc voilà, je vais terminer là-dessus.
Merci Louis. Pour continuer sur ce sujet, je vais maintenant vous parler de noms de famille en particulier, des noms célèbres.
L'étymologie en folie.
Donc dans la chronique d'aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler de noms de familles célèbres. J'en ai trouvé quelques-uns dont l'étymologie n'est pas évidente, et pas aussi évidente que par exemple La Fontaine. Je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient. Mais du coup, puisque j'évoque un auteur français, je vais commencer par quelques auteurs, quelques artistes français connus. Par exemple, Balzac. Ça vient d'un nom de lieu, gallo-romain. Donc à l'époque, les noms qui se terminaient en « acum », c'était en fait quelque chose qui s'est créé par le contact du latin avec les langues gauloises. Et dans ce cas-là, plus particulièrement, c'était le domaine de Balitius, avec du coup « acum » qui s'ajoutait derrière. Et du coup, c'est ça qui a créé après Balzac. Pour Rimbaud, ça vient du germanique « ragin »,« conseil » et « bald », »,« audacieux ». Quelqu'un avait dû être de bons conseils à une époque. On cite rarement l'un sans l'autre, mais Verlaine, lui, c'est un diminutif latin de Villana, qui veut dire petite ferme. Bon, rien à voir. Pour passer un peu plus vers des artistes, on a par exemple Ingres, qui vient de l'ancien français, Ingres, qui voulait dire maigre. Donc, encore une fois, on trouve les catégories dont Louis a parlé plus tôt. Il devait y avoir une anecdote à une époque qui a donné ce nom-là. Et après, on a par exemple Monet. Donc là, c'est un nom affectueux qui est formé sur la finale d'un nom qui devait finir en M-O-N. Peut-être sûrement Simon, Aimon. Et on a rajouté un suffixe diminutif E. Renoir. Rien à voir avec la couleur noire, alors attention. C'est encore le germanique ragin, conseil. Le hasard est assez drôle. Et du coup, Ward Gardien, donc encore une fois, quelqu'un de bon conseil. Pour prendre un artiste français plus récent et sortir un peu de la peinture, Godard, c'est un nom qu'on dit Théophore parce qu'il contient le nom de Dieu. Donc le germanique God, Dieu, et Hard, dur, fort. Donc Dieu, fort, Dieu, puissant. Et en cherchant ces noms-là, j'ai trouvé quelques autres que je trouvais intéressants, qui sont aussi très connus. Mais là, c'est parce que, vous savez, il y a quelques entreprises en France qui portent le nom de leur créateur. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce nom-là n'a rien à voir avec ce pourquoi l'entreprise est connue. Par exemple, Bouygues, ça vient d'un mot pré-latin, bodica, qui veut dire terre en jachère. On a aussi, par exemple, Garnier. C'est encore une fois un nom d'origine germanique, en fait un nom d'une personne, Warin Harry, donc plus un prénom en fait, Warin Protection, Harry Armée, donc encore une fois rien à voir avec Garnier. On a aussi Gaumont, encore une fois le germanique, Goth, Goth, et Mund, Protection, donc Protection des Goths, encore une fois rien à voir avec Gaumont, le cinéma. Et Peugeot, qui est un nom en fait qui était très présent en France de l'Est. C'est un suffixe diminutif, O, le OT à la fin. Et le radical, c'était la forme régionale PG, poids. Donc, rien à voir avec les voitures. C'est maintenant l'heure de notre deuxième pause musicale. Dites mon nom, ou say my name en anglais, comme le disent les Destiny's Child, dans ce grand classique. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, you acting kind of shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Any other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm a girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I was doing things. Something's going down, that's the way it seems. Nobody's holding you back from me. I know how you used to do. When you're saying everything to me times two.
Questioning me like I'm a criminal or something. Stole your heart or something, like I'm up to something. You must be great girlfriends, gossiping. Chicks hate on Kobe cause he ain't with them. Feel me now, listen how silly you sound. Suspecting a voice in the background. Come on now, you trust is foul. Checking messages down. How old are we now? You probably hate me now like Nostradamus. I'm just keeping it real with you, honest. My silence forgive, I'm stressed today. I was shopping with my ex for lingerie. For my newfound love, that would be you. No shame in your name, I say what I want.
I know you say that I was doing the thing. Something's going down, that's the way it seems.
Say my name.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Vous êtes sur Prune 92 FM et toujours dans l'émission Langue de Prune. Louis va maintenant nous présenter notre troisième chronique, À qui la faute ?
À qui la faute ?
Alors, aujourd'hui, dans À qui la faute, je vais vous parler de Autant pour moi. Oui, autant pour moi. Vous savez comment c'était composé l'expression Autant pour moi, non ? Vous feriez comment, vous ? Le plateau.
Qu'est-ce qu'un mot ?
Non !
A-U, espace, T-E-M-P,
S.
S, ouais, je le mettrais comme ça.
Ah oui, alors que moi j'écrirais ça A-U-T-A-N-T, pour moi.
Ah ouais, pareil, mais je crois qu'on a faux.
Eh ben vous avez tort, et on verra pourquoi. moi-même, j'ai pas pris de risque, hein. Dans mon script, je l'ai écrit de manière différente, comme ça je me mouille pas. Bon, plus sérieusement, remarquons déjà une chose, cette expression, elle est averbale, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de verbe, ce qui est plutôt commun dans les expressions interrogatives et exclamatives, et ça a un peu d'intérêt dans ce que je vais expliquer ensuite. À la surprise de tout le monde, je vais diviser mon expression en trois temps. Bon, je triche un peu, la première version, elle est tronquée, c'est juste « autant », avec un point d'exclamation, genre « autant », qui est une injonction militaire. Mais pour comprendre le clivage entre « autant » T-E-M-P-S et « autant » A-U-T-A-N-T, il faut passer par là. Bon, je disais donc « autant ». Le milieu militaire regorge d'expressions dites « averbales », comme on vient de le voir, comme par exemple « en joue »,« feu » ou « en place »,« repos ». C'est averbal, il n'y a pas de verbe, et on est dans l'expression militaire. L'utilisation de cette expression du mot « temps », l'utilisation dans ces expressions du mot « temps », T-E-M-P-S, du coup, désigne le moment auquel il faut faire certains mouvements séparés par des pauses. En deux temps, trois mouvements, c'est un exemple qui est très connu. Ainsi, dire « autant », c'est pour marquer la reprise d'un mouvement depuis le début. Il existe plusieurs déclinaisons, mais voilà, on a l'idée principale. Vient donc l'expression « autant pour moi ». Tout d'abord, la version « autant », T-E-M-P-S, qui est la plus couramment utilisée. Et c'est là qu'on voit le lien avec l'expression militaire que je viens de vous parler. On passe de « autant » à « autant pour moi », car l'idée c'est d'admettre une erreur, et l'on montre que l'on comprend qu'il va falloir reprendre les choses depuis le début. Tout pareil que le militaire en somme. Si c'est pas un ordre, et que vous aboyez pas l'expression, hein, ce serait pas vraiment sympa de dire « autant pour moi ». Et enfin, cette version qui est retenue, hein, la version « autant » T-E-M-P-S, elle est retenue par l'Académie française.
Ah.
Incroyable, première fois que je dis que l'Académie française peut-être a raison. Bon, moi j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, voilà donc l'autre version, « autant pour moi », A-U-T-A-N-T. Elle est donc moins reconnue, vous l'aurez compris, c'est la version un peu contestataire. En fait, la construction de « autant pour moi », elle est un peu alternative, hein, comme je viens de le dire. Elle se repose principalement sur l'intervention de différents intellectuels à plusieurs périodes. Sa plus ancienne forme, elle remonte à 1640, dans un dictionnaire rédigé par Antoine Audin. Audin interprète auprès de Louis XIII. Il y décrit alors comme l'expression comme une forme de raillerie. Toutefois, l'expression a disparu ensuite et elle reparaît qu'en 1923 et avec la forme autant T-E-M-P-S. Plusieurs linguistes du XXe siècle comme Maurice Grévis ont remis en question cette graphie et ils ont exprimé leur impression que « autant » T-E-M-P-S est qu'une altération de « autant » A-U-T-A-N-T. Cette prise de position explique en partie l'attraction qu'a pu gagner cette version. Enfin, et je terminerai là-dessus, les deux expressions peuvent en réalité coexister si on les comprend ainsi. « Autant pour moi » T-E-M-P-S pour « reprenons au moment où je me suis trompé » et « autant pour moi » A-U-T-A-N-T pour « moi aussi j'ai commis une erreur en voulant vous corriger ».
Merci Louis. Nous avons évoqué donc ensemble les noms, les prénoms, principalement en France, mais dans le reste du monde, et comment est-ce que ça se passe ? Morgane va nous présenter quelques manières de se nommer différentes des nôtres.
Alors de mon côté, je me suis penchée sur les différentes utilisations des noms et prénoms à travers le monde. Donc l'angle le plus intéressant, et qui à mon sens était le plus logique, c'était de prendre l'Asie. Je pense qu'on a tous plus ou moins conscience que les noms et prénoms sont utilisés très différemment par rapport aux pays européens. Alors c'est parti, on s'en va à l'autre bout du monde. Commençons avec la Chine, pays regorgeant de mythes et de légendes plus ou moins connus de tous. Et surtout, un pays qui a grandement participé à l'histoire asiatique. Mais ici, l'aspect qui va nous intéresser, c'est bien celui des noms de famille. Aujourd'hui, le nom est transmis du père à l'enfant. Mais saviez-vous que ce n'était pas le cas il y a des siècles de ça? Remontons alors dans le passé, quand la Chine était encore une société matriarcale. Et ouais, je sais, beaucoup trop cool. En fait, les noms de famille sont une institution depuis cette période en Chine. Ils ont plus de sens qu'on pourrait le croire. Ils peuvent correspondre au nom de lieu de résidence, à une position occupée, à une occupation ou encore une caractéristique de l'individu. Là-dessus, on rejoint un peu les Romains. Et ouais, finalement, tout est lié. Mais il y a plus encore. Cette tradition implique que chaque personne a un nom formel, un nom informel et un nom rituel. Comme vous l'aurez tous compris, on a tout intérêt à être vigilant en s'adressant à une personne en Chine. Car oui, en fonction de sa propre position professionnelle ou même amicale, on utilise un nom différent. Alors commençons par ce qu'on appelle le nom officiel, qui est donné à la naissance. Il est aujourd'hui hérité du père avec un prénom choisi par les parents. Celui-ci, tout le monde l'a, peu importe sa situation sociale ou professionnelle. Finalement, c'est l'équivalent des noms et prénoms français. Mais attention, parce qu'ensuite ça se complique. On retrouve ce qu'on appelle le prénom d'adulte. Et celui-là n'est donné qu'aux jeunes hommes de 20 ans pour signifier le passage à l'âge adulte. Il est choisi par la famille en fonction du caractère. Et c'est là que ça devient difficile à suivre. Parce qu'à partir de ce moment-là, il est interdit de s'adresser à ce jeune homme par son nom officiel, autrement dit son nom de naissance. C'est donc le nom d'adulte qui fait désormais foi. Bon, prenons un petit exemple pour concrétiser tout ça, parce que je sens que j'en ai perdu quelques-uns, et c'est bien normal. Pour ça, j'ai choisi un livre que je vous recommande fortement, Modao Zushi. Prenons le nom du personnage principal. Enfin, prenons son nom de naissance d'abord. C'est Wei Ying. Donc Wei, c'est le prénom de son père, et Ying signifie nourrisson. Ensuite, on a son nom d'adulte, Wei Wuxian. Vous l'avez donc compris, le nom de Wei vient de son père, et Wuxian signifie cette fois une partie de son caractère, disons. Et donc c'est n'avoir aucune envie. C'est le fameux nom d'adulte qui est donné en fonction du caractère. Et enfin, son surnom, parce que oui, il peut aussi y avoir des surnoms, c'est le patriarche Li Ling. Et les surnoms sont donnés à partir d'événements notables de la vie de la personne. Là, en l'occurrence, il est lié à un lieu, Li Ling. Alors qu'en est-il des femmes dans toutes ces histoires? Eh bien là, attention, grand choc, c'est encore différent. Une femme ne change pas de nom au cours de sa vie, ou très rarement. Elle garde son nom de naissance, point. Et oui, bienvenue dans les sociétés patriarcales. On pourrait continuer des heures sur ce sujet, mais malheureusement, ce serait bien trop long. Je pense que l'essentiel est là. Le principal est de comprendre à quel point, par rapport à la France, la Chine utilise les noms différemment. Là où les Français utilisent un diminutif du prénom, les Chinois en inventent un autre, totalement différent en ce qui concerne les hommes. Et maintenant, c'est le moment pour les otakus de briller. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est probablement que vous n'en faites pas partie. Alors, un petit point de vocabulaire s'impose avant tout. Un otaku, donc O-T-A-Q-U, c'est un mot japonais qui désigne quelqu'un qui est obsédé par un loisir tel que les mangas, les jeux vidéo ou encore les animés au détriment de toute autre chose. Bon, maintenant que tout le monde sait ça, on va pouvoir entamer le sujet qui nous intéresse réellement dans la culture japonaise, les noms. Déjà, une première chose est importante à soulever. Quand on en vient à l'utilisation des noms en Chine et au Japon, les deux pays sont très différents. Mais une chose reste la même. Appeler quelqu'un par son prénom est un peu plus intime au Japon qu'en France, tout comme la Chine. On aura donc tendance à utiliser le nom de famille. Là où en France, deux collégiens qui viennent de se rencontrer s'appelleront par leur prénom de façon très naturelle, les Japonais, eux, utiliseront leur nom de famille. Peu importe l'âge, cette règle s'applique à tous. Et concernant ces noms, ils ont une histoire bien moins ancienne qu'en Chine, car ils ne sont apparus qu'à l'ère Meiji, c'est-à-dire entre 1868 et 1912. Avant ces temps, ils étaient réservés à la noblesse japonaise. Mais lors de l'instauration de l'état civil au Japon, les Japonais se sont alors inspirés des paysages qui les entouraient pour créer des noms. Une chose est intéressante à savoir toutefois, le Japon posséderait au moins 100 000 noms de famille, ce qui est beaucoup plus que la normale et qu'un pays avec moins d'habitants. Maintenant, si on se penche sur les prénoms, le système est encore une fois totalement différent de la France. Le genre d'un prénom japonais, c'est-à-dire s'il est masculin ou féminin, est déterminé par une particule à la fin de ce dernier. Et pour tous ceux qui lisent des mangas ou regardent des animés, le prochain point devrait vous parler. Au Japon, le rajout d'un suffixe après le nom est automatique. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on parle à quelqu'un de façon formelle, comme dans un milieu professionnel, on va rajouter « san ». Et « san », finalement, c'est l'équivalent de « monsieur » ou « madame » dans la langue française. Mais en fonction de la situation ou de la relation que l'on a avec la personne, ce suffixe va varier. On peut également compter « chan »,« sama » ou encore « kun ». Bien évidemment, il en existe d'autres. Et donc, En ce qui concerne Chan, ce sera sûrement utilisé avec plutôt une jeune femme, ou Kun avec un jeune homme. Et Sama, ça va être un suffixe qui va vraiment montrer le respect. La langue japonaise, c'est donc très logique et différent du français. Je tiens toutefois à préciser quelque chose de fondamental. Il ne faut en aucun cas penser qu'il n'y a qu'une seule traduction pour les suffixes ou mots japonais en général. Je ne prétends pas non plus tous les connaître, mais la langue japonaise est différente du français, encore une fois. Donc, là où nous aurons qu'une signification pour un mot, les Japonais en auront peut-être plusieurs. Donc, si on prend un petit exemple, par exemple, on prend Usui, le prénom. Donc, les fans de Demon Slayer auront reconnu. Si la personne qui lui parle a une relation professionnelle avec ce dernier, elle rajoutera San, ce qui donnera Usui-san. Vous aurez compris que ça marche comme ça avec tous les autres suffixes. Et il existe enfin une autre façon de s'adresser à quelqu'un au Japon, en utilisant les rôles familiaux. Encore une fois, les fans de la culture nippone reconnaîtront ici certains noms. On peut citer quelques exemples comme Oji-chan pour grand-père, Oto-san pour papa, Oka-san pour maman, Oni-chan pour grand-frère ou Oné-chan pour grande-sœur. On notera encore une fois la présence des suffixes au bon des noms. La dernière façon de s'adresser à quelqu'un est en utilisant le rôle social. Ici, on peut trouver une similarité avec la Chine. Un exemple que tout le monde doit connaître ici, Sensei. Les fans de Karate Kid ou Cobra Kai se souviendront des moments entre Daniel-san et Miyagi-sensei. Mais il existe également Senpai, par exemple. On l'utilise pour toute personne qui était présente avant nous dans un milieu scolaire ou professionnel. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, un collégien s'adressera à un camarade de classe plus vieux en utilisant « senpai ». Toutes ces règles et traditions peuvent paraître complexes aux yeux des Européens, mais il ne faut pas oublier que, tout comme la Chine, c'est une véritable institution au Japon, même si la tradition est plus récente. Toutefois, un article de La Croix publié en 2018 rappelle que ces traditions devraient peut-être être remises au goût du jour au Japon. Il est notamment dit que 96% des femmes prennent le nom de leur mari car le double nom est illégal selon la loi japonaise. Toutes ces traditions, très respectées par les Japonais, les empêchent finalement d'avancer vers un système plus moderne. Étant donné que le gouvernement refuse de bouger d'un iota, plusieurs couples décident carrément de ne pas se marier afin de garder leur nom. Tous ces problèmes sont donc de plus en plus soulevés par la population qui semble vouloir faire évoluer le Japon et emprunter une voie plus moderne. Mais alors, qui gagnera dans la bataille de la tradition contre le modernisme ? Affaire à suivre.
Merci Morgane. Et donc, pour la dernière chanson de cette émission, nous allons maintenant écouter Endless Nameless de Nirvana, donc l'absence de nom. We'll be right back.
vous êtes toujours sur Prune, 92 FM, toujours dans l'émission Langue de Prune. Nous l'avons donc vu au cours de cette émission. Notre nom, nos prénoms sont des héritages, notre nom de famille l'est dans le sens littéral du terme. Azilis nous a expliqué comment le prénom est un héritage aussi culturel, générationnel même. C'est une des premières informations que nous transmettons lorsque nous rencontrons quelqu'un. Et ainsi, cet héritage va être une des premières choses sur lesquelles les personnes vont nous juger. Par exemple, s'il est un peu plus normal aujourd'hui de ne pas mettre sa photo sur son CV, on ne peut pas échapper aux renseignements de son nom et son prénom. Et là-dessus, il y a eu une étude de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche des études des statistiques, qui fait partie du ministère du Travail. Donc une étude de novembre 2021, qui soulignait en fait que les candidatures à des offres d'emploi dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 31,5% de chances de moins d'être contactées par des recruteurs que celles portant un prénom et nom d'origine français. C'est donc un impact concret en fait sur la vie des gens. Le prénom, ça soulève aussi des questions sur le genre. Même s'il existe quelques prénoms mixtes, par exemple on a parlé de Maël un peu plus tôt, la plupart ne le sont pas, contribuent de manière importante à comment on va se représenter le genre d'une personne qu'on rencontre. Et c'est une question du coup essentielle, particulièrement pour les personnes transgenres, pour qui le choix de leur prénom est un élément important, souvent une étape assez forte aussi dans leur transition. Voilà, sur ces quelques éléments, on va vous laisser réfléchir du coup à votre nom, votre prénom, quel impact ils ont sur votre vie en fait et sur comment les gens vous perçoivent. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette reprise d'émission. Nous nous retrouverons donc du coup le 29 novembre à midi, comme toujours, et je vous souhaite une très agréable journée. Au revoir.
À plus dans le bus.
Au revoir. Salut.
À plus dans le bus. À plus tard dans
le car. À bientôt dans le métro.
À mardi dans le taxi.
À plus tard dans le car.
Dans le cockpit.